Alexandre Aizé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes stratégiste chez Richelieu Gestion. On va parler avec vous de marché, de perspectives sur ces marchés, avec bien entendu le sujet de la Chine hein, au cœur des interrogations. Mais quand on regarde les indices, on a l'impression que les investisseurs s'adaptent et ne trouvent pas que ce sujet-là est très important quand on regarde simplement les indices. Ça veut dire quoi? Qu'on oublie un petit peu les facteurs de risque sur les marchés?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'on est, encore dans cette même dynamique que l'on a eue en 2019, où finalement les mauvaises nouvelles n'avaient que très très peu d'impact sur les marchés financiers, alors qu'ils en avaient sur l'économie réelle. Donc c'est très particulier parce qu'actuellement, il y a une séparation entre d'un côté les mauvais chiffres économiques et les mauvais chiffres précurseurs, et des marchés financiers qui font fi finalement de ces indicateurs. Alors la raison essentielle, c'est que finalement, ce qui contrebalance cette crainte sur l'économie, ce sont les ajouts de liquidités et les banques centrales qui jouent leur rôle de stabilisateur, voire même de surstabilisateur, et qui continuent finalement à faire progresser les indices, et notamment les grands indices boursiers.
Alors, si on était du temps d'Alan Greenspan, on aurait parlé d'exubérance irrationnelle. Ce décalage, quand même, ne peut pas tenir. Historiquement, sur les marchés, on dit toujours que les marchés anticipent. Là, ils anticipent pas du tout.
Alors, effectivement, historiquement, on disait beaucoup que les marchés anticipaient. Après, on est quand même dans une nouvelle ère du trading haute fréquence, de l'information à tout va sur les réseaux sociaux. Les marchés financiers se sont véritablement adaptés par rapport à l'information. Et c'est vrai que l'information est directement impactée dans les cours boursiers. La preuve en est, c'est que dès qu'il y a les chiffres, notamment sur les infections sur le coronavirus, tout de suite, c'est intégré sur Bloomberg, sur tous les réseaux sociaux, sur les médias financiers. Tout de suite, effectivement, il y a des analyses qui sont faites, ce qui n'était pas véritablement le cas avant. Alors oui, il y a peut-être une exubérance. En tout cas, l'action des banques centrales est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a véritablement des ajouts dans l'économie et les taux qui baissent encore. Donc ça veut dire quand même que l'implication, notamment sur les valorisations, finalement, est réel parce que les taux d'intérêt continuent à baisser, alors même que finalement on est dans une dynamique d'inflation qui n'est pas comme on l'a vécu dans les années 2009-2010, dans un risque de déflation.
Quels sont les indicateurs que vous avez regardés et qui vous justement qui marquent ces peut-être des inquiétudes, des freins, c'est quoi les indices PMI par exemple de...
Alors, sur les indices PMI, je dirais que un des principaux indicateurs que je regarde, moi, pour regarder la dynamique des marchés financiers, ce sont les taux réels. Et notamment aux États-Unis, puisqu'on est quand même, encore une fois, dans une activité économique qui est quand même assez florissante, avec des indicateurs économiques, c'est un peu une zone à part, les États-Unis, mais sur lesquels on a un consommateur extrêmement résilient, une croissance économique qui sera autour de 2% et une inflation qui sera aux 2% pour cette année et pratiquement pour l'année prochaine. Et pourtant, nous avons des taux réels à long terme qui redeviennent négatifs. Et ça, c'est important parce que c'est très très bon pour les marchés financiers. La seule chose, c'est que quand vous avez une économie qui fonctionne très bien avec des taux réels négatifs, vous avez effectivement des risques de bulles comme on a pu avoir les années précédentes. Et le véritable risque actuellement par rapport à tous ces ajouts de liquidités, ça serait potentiellement ce risque de bulles sur certains actifs. Alors, la différence, c'est qu'on a connu 2008-2009 et notamment les banques centrales se focalisent énormément sur le risque de bulles qui peuvent être systémiques. Donc tout ça est monitoré, ce qu'il n'était pas il y a 10-15 ans.
Alors, il y a quelques années ensemble, on aurait regardé le Baltic Dry Index, l'indice du commerce mondial. On a vu d'ailleurs un beau graphique avec une belle chute de cet indice-là. Il y a quelques années, les investisseurs auraient dit, attention, il va y avoir ou il y a un ralentissement au cours de ce commerce mondial. Aujourd'hui, il est presque ignoré cet indice, même s'il revient un petit peu de temps en temps.
Alors, ce qui est vrai, c'est que du temps du Baltic Dry Index, vous aviez sur les 10 plus grandes capitalisations boursières, vous aviez 7 pays, 7 sociétés de pays émergents. Là, ce n'est plus du tout le cas. Les plus grandes sociétés des indices, hein, qui font plus de 200 ou 300 milliards de dollars de capitalisation, sont quasiment toutes des valeurs technologiques qui sont moins impactées, effectivement, par des chemins pris ou en tout cas le commerce mondial physique. Donc on est dans une situation complètement différente. Alors par contre, ce qu'il faut regarder actuellement sur les marchés, c'est la différenciation qui est faite en termes de flux et de valorisation des grandes capitalisations boursières qui profitent finalement de ce système-là par rapport à l'ensemble des autres entreprises qui d'une certaine manière sont un peu à la traîne par rapport aux grandes sociétés technologiques.
Les sujets de valorisation forcément reviennent régulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette drogue entre guillemets injectée par les banquiers centraux, on arrive quand même à des je dirais une analyse, on peut faire une analyse fine de ces dévalorisations?
Ce qui est certain, c'est que de manière, on va dire, théorique, quand nous faisons des calculs actuariels notamment, quand vous avez des taux extrêmement bas, finalement, vous donnez beaucoup de poids au flux futur, ce qui n'est pas le cas quand les taux sont, en tout cas en termes de valorisation, quand les taux sont plus hauts. Donc finalement, vous êtes beaucoup plus dans l'expectative et c'est une des raisons pour lesquelles les valeurs de croissance qui ont une croissance un peu plus visible, effectivement, attirent beaucoup plus d'investisseurs que des valeurs, on va dire, plus cycliques qui ont des perspectives de résultats qui sont beaucoup plus, en tout cas, discutées.
Oui, parce qu'on a vu, si on regarde un peu la cote aux États-Unis, bah, les valeurs tech dont vous avez parlé, il y a eu une vraie concentration de ces valeurs tech, chacune d'entre elles passant le trillion de dollars, c'était un petit peu l'échelle. Et puis si on regarde juste le CAC 40 par exemple à Paris, et bah, effectivement, on avait des valeurs du luxe qui concentraient aussi beaucoup d'investissements.
Disons qu'on a une concentration au niveau des capitalisations boursières. Alors, sans faire d'analogie, hein, tout ça ressemble quand même aux années 98-99, alors où finalement à l'époque, on ne parlait pas de tracker, il n'y en avait pas, mais c'était toutes les gestions indicielles qui finalement favorisaient les grandes capitalisations. Et puis on avait aussi des grandes thématiques, et notamment la thématique de la tech. On se souvient des fonds médias dans les années 98-99. Finalement, on retrouve la même situation actuellement avec des flux qui se concentrent véritablement sur des valeurs. Et effectivement, la problématique, c'est de savoir si est-ce que l'on est dans une bulle et si on est dans une bulle, quand est-ce qu'il faut en sortir? Puisque ça peut durer 1 à 2 ans. Et donc, tous nos métiers, c'est de trouver un catalyseur pour voir, pour comprendre quand est-ce que cette machine, effectivement, peut se dérailler. Actuellement, les banques centrales sont là. On ne voit pas comment elles ne pourraient pas être là avec la situation notamment économique et humanitaire en Chine. Quid de demain? Pour l'instant, on n'en est pas dans cette expectative-là.
Ça veut dire, sur une gestion, pouvoir trouver des moyens de se protéger effectivement d'accidents futurs qui, même s'ils ne sont pas là, peuvent arriver.
Pouvoir se protéger ou finalement ne pas forcément aller sur des actifs à la mode. Diversifier son portefeuille, c'est vrai que là, on a des concentrations assez fortes et on réapprendra, en tout cas, il faut que les investisseurs réapprennent à diversifier. Et rappelons-nous, notamment, il y a 20 ans, quand on avait eu effectivement potentiellement ces exubérances, tout le segment des small et mid cap qui avait été complètement oublié, puisque les flux s'étaient retirés pendant 6-7 ans, effectivement, les investisseurs s'étaient remis sur ces classes d'actifs et avaient permis de la création de valeur dans les portefeuilles.
Merci beaucoup Alexandre Aizé d'avoir été avec nous.
Merci.